bienvenue dans Kaléidoscope. C'est Assunta avec vous pendant une heure sur les ondes de RDIWA, le 107.5 et le 101.7. Kaléidoscope, c'est dans la première partie de l'émission, le tour du monde en musique, mais aussi en infos diverses et variées sur tous les thèmes qui peuvent nous intéresser ou pas, mais en tout cas qui nous apprennent quelque chose. C'est le choix de l'info légère, digeste, instructive. Dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec un passionné qui a réussi à concrétiser son projet et qui nous donnera des pistes pour réveiller les passions en sommeil, passer à l'action, passer vers la réalisation de ce projet. Comme vous le savez, Kaléidoscope, c'est la musique du monde également, et nous partons tout de suite en musique avec un morceau de Myriam Makeba que je vais vous laisser apprécier. C'était Myriam Makeba avec un morceau intitulé « Pata Pata ». Si nous commencions cette partie de l'émission avec justement le support de la musique comme exercice de méditation. Souvent, nous sommes dans une vie qui est saturée de bruit, de sons, de pollution, de toutes sortes, les pollutions sonores, plus ou moins agressives. Nous avons tendance à en prendre le temps d'écouter vraiment. Je vais vous proposer un exercice de méditation avec nos cinq sens. C'est un exercice tiré d'un hors-série du magazine Psychologie que j'ai trouvé fort intéressant et que je souhaitais partager avec vous. Pour pratiquer donc cette méditation, cette relaxation avec un support musical, vous allez choisir un disque que vous aimez bien. Vous allez vous mettre assis ou allongé, les yeux clos ou mi-clos. Votre respiration va devenir ample et profonde et vos muscles vont se relâcher. Vous allez commencer par vous laisser bercer par les sons, car la musique a le pouvoir de nous connecter directement à notre inconscient et à notre imaginaire. Vous pouvez laisser venir librement les images qui vont venir à l'intérieur. Laissez venir également les émotions qui sont associées à ces images. Puis, comme des nuages dans le ciel, vous allez laisser filer toutes ces images, toutes ces réminiscences qui remontent. Une fois que votre esprit sera libre, vous reviendrez de manière consciente à votre respiration et vous pourrez vous installer dans le mouvement régulier de l'inspire-expire et vous allez sentir votre rythme cardiaque s'apaiser. Vous pourrez alors entrer dans la musique, vous concentrer sur le rythme, la mélodie et les instruments. Vous pourrez vous fondre en elle comme si vous nagiez en pleine mer. À ce moment-là, plus rien n'existe que ces sons que vous percevez dans le détail. Alors si nous continuons donc ces exercices de méditation avec nos cinq sens, on va utiliser maintenant la vue. Et nous prendrons comme support une fleur. C'est le printemps, donc c'est le bon moment de vous choisir une fleur que vous appréciez. Nous baignons souvent donc dans la culture de l'image qui nous bombarde en permanence d'informations visuelles. Mais prenons le temps de regarder vraiment. Pour cet exercice, vous allez être assis, le dos bien droit, les épaules relâchées et votre respiration va devenir ample et régulière. Vous posez à hauteur du regard une fleur à environ 60 cm de vous. Vous ne devez pas la toucher. Vous observez d'abord la fleur et restituez mentalement l'image que vous avez enregistrée. Vous recommencez jusqu'à ce que cette représentation soit la plus précise possible. Vous passez ensuite à une observation plus détaillée. Vous vous attardez sur les moindres détails de cette fleur, sur les pétales, sur la tige, sur les feuilles, sur la texture, les nuances de couleurs, les formes. Et vous allez vous imaginer que vous pouvez vous promener dans ces pétales. Vous allez explorer la fleur de l'intérieur comme si vous pouviez devenir minuscule et vous rapetissez à l'infiniment petit. Et dans cette sensation, vous ressentirez que l'univers tout entier est contenu dans cette fleur. Poursuivons maintenant nos exercices de méditation avec les cinq sens et parlons maintenant du toucher. Pour pouvoir faire cet exercice, je vous proposerai de prendre un galet. C'est vrai que notre société nous laisse de moins en moins de temps pour les contacts physiques. Pourtant, le toucher est un besoin émotionnel fondamental. Prenez un galet dans votre main. Vous allez vous asseoir, vous installer dans une respiration profonde et régulière. Vous allez avoir les yeux mi-clos et le regard posé à environ 1,50 m devant vous. À aucun moment, vous ne devez regarder le galet. Vous allez prendre conscience de sa forme, de son volume, de son poids, de sa texture. Vous allez le faire rouler sur le dos de vos mains, l'enfermer dans vos paumes, le faire glisser entre vos doigts. Effleurer la surface du bout des doigts, l'envelopper et vraiment prendre conscience de tout ce qu'il représente. Vous allez varier les rythmes, tantôt lentement, tantôt rapidement. Vous allez sentir le galet devenir de plus en plus chaud et peut-être même humide à mesure que vous le manipulez. Poursuivez jusqu'à ce que vous ayez une représentation visuelle intérieure très précise du galet. Continuez cet exercice jusqu'à ce que vous sentiez que le galet fait partie de vous. Poursuivons maintenant les exercices donc de relaxation, de méditation avec comme support nos cinq sens et parlons maintenant du goût. La façon dont on mange en dit long sur notre relation au plaisir. La qualité, la lenteur, la conscience sont les grands absents de nos tables malheureusement. Pour cet exercice de méditation avec le goût, je vous proposerai un support qui est le chocolat. Je pense que cela plaira au plus grand nombre. La méditation du goût est non seulement une célébration des cinq sens, mais aussi le moyen de prendre conscience de la relation complexe que nous entretenons avec la nourriture. Pendant cet exercice, vous pourrez identifier les émotions qui se présentent à vous. soit l'impatience, soit la frustration, soit la culpabilité, soit le réconfort. Cette méditation gourmande a pour but de nous rappeler que nous sommes des êtres de chair et d'esprit, d'émotion, de raison, et que le bien-être se trouve dans la juste mesure, ni dans l'excès, ni dans la privation. Quand vous allez croquer votre carré de chocolat, vous allez faire attention à la forme du chocolat, à son bruit quand vous le croquez, au parfum qu'il dégage, à sa texture et enfin à sa saveur. Poursuivons notre tour des cinq sens avec la méditation et nous finirons avec l'odorat. Pour cet exercice, vous pourrez prendre comme support un bâton d'encens. L'odorat est directement lié à notre cerveau limbique, le siège de nos émotions, ce qui explique l'extraordinaire pouvoir des senteurs sur le corps et sur l'esprit. Vous choisirez un encens subtil, naturel, au parfum apaisant. Vous ferez brûler un bâton à environ 1 mètre de vous, puis vous vous installerez confortablement en position assise, les yeux mi-clos. Relâchez vos muscles et régulez votre respiration. Le parfum ayant un pouvoir suggestif très puissant. Vous serez assailli par des images, des souvenirs ou des pensées. Accueillez-les, puis laissez-les passer. Vous inspirez profondément le parfum, vous visualisez son parcours dans votre nez, votre gorge, vos poumons et vous expirez en refaisant le trajet en sens inverse. Et ce faisant, vous imaginerez que vous rejetez toutes vos tensions, vos craintes et vos ruminations. Vous pourrez vous fondre totalement dans l'odeur agréable de cet encens. Nous voilà arrivés au terme de ce tour d'horizon de nos cinq sens avec la méditation et nous partons tout de suite en musique aux Antilles avec un morceau de Dédé Saint-Prix. Je fais un petit clin d'œil à Angela et Nicolas qui se reconnaîtront.
Pipo!
Sonia,
Belle
bolo bolo,
ni
soso,
Belle
bolo bolo, ni
La soso do domingo. La soso do domingo, starling. La soso do domingo. La soso do domingo, starling. La soso do domingo.
La soso do domingo.
¿Cómo?
La soso do domingo.
Sí, señor.
La soso do domingo.
La soso, la soso, la soso do domingo, la soso, la soso, la soso do domingo. Publicité, 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 publicité.
Un morceau intitulé Publicité de Dédé Saint-Prix et nous allons pouvoir continuer notre émission avec maintenant un thème sur le jardinage. C'est tout à fait la saison des plantations en ce moment avec ce beau soleil qui revient dans le Diois. Eh bien, si vous avez peu de temps à consacrer aux plantations, il est inutile de sortir les grands outils, ni besoin d'avoir beaucoup de temps pour apporter un peu de couleur à votre jardin et à votre environnement. Juste 5 minutes suffisent. En 3 étapes, comment faire des plantations express? Déjà, vous allez arranger et décider de la place que vous allez accorder à cette plantation. Vous allez arroser la terre si besoin la veille pour l'assouplir. Vous pourrez désherber, décompacter à la fourche. Vous allez en profiter pour retirer les racines des mauvaises herbes qui traînent et vous pourrez effectuer cette préparation jusqu'à une dizaine de jours à l'avance. Dans la deuxième étape, vous préparez la plante que vous souhaitez planter en faisant tremper la motte jusqu'à absorption complète de l'eau. Vous démêlez légèrement les racines de la motte sans insister. Placez-la dans un trou juste assez grand pour qu'elle y entre. Vous comblez de terre et vous couvrez le haut de la motte sous 2 cm. Pour la troisième étape, vous arrosez aussitôt afin que la terre colle aux racines. Vous nivelez à la griffe et ou à la main si besoin et vous tenez la terre moite dans les semaines à venir, quitte à déposer un paillis léger au pied de la plante. Vous pouvez également planter des bulbes de printemps en accompagnement si vous en trouvez déjà. Nous allons continuer à parler jardin, mais cette fois de jardin secret. Il ne s'agit pas de jardinage. Comment cultiver son jardin secret ? Chaque couple est en théorie responsable de deux espaces, son espace personnel et l'espace commun. Et en fait, plus on est capable de cultiver et d'enrichir son espace personnel, moins on fait peser sur l'autre des exigences qu'il n'est pas en mesure de satisfaire. Faire preuve de créativité, de curiosité, d'esprit de découverte dans des activités extérieures au couple, c'est indispensable si on ne veut pas étouffer à deux. C'est ce que le sociologue Serge Chaumier appelle la nécessité du tiers dans le couple, car rien n'épuise davantage celui-ci que le huis clos émotionnel. Pratiquer des activités à l'extérieur et y trouver du bien-être donne à l'énergie du couple un rayonnement nouveau. Cela confère aussi à chaque partenaire une dimension de mystère qui ravive le plaisir des retrouvailles et réveille le désir de conquête. Revenons à la nature et parlons maintenant de la forêt. Alors, la forêt aurait un effet placebo. Le cortisol est l'une des principales hormones du stress. Une promenade en forêt diminuerait son taux dans le sang. C'est ce que révèle la synthèse de 8 études réalisées sur ce sujet. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer le pouvoir calmant des forêts. Des travaux ont révélé la présence de certaines molécules dans l'air qui pourraient avoir cet effet. Toutefois, une étude japonaise récente montre qu'il n'est pas nécessaire d'être physiquement présent dans les bois pour observer un effet sur le cerveau. Les images de la forêt suffisent. Il y aurait deux explications à cela. Soit la forêt cache des éléments visuels qui stimulent directement notre cerveau sans que nous en ayons conscience, soit l'idée de la forêt comme étant un lieu apaisant a un effet placebo. Quoi qu'il en soit, le fait d'être physiquement ou virtuellement dans les forêts diminue les marqueurs du stress et l'activité des régions cérébrales impliquées dans la dépression et les troubles mentaux. Marquons à présent une pause musicale et nous repartons faire un petit tour du côté des Antilles avec le groupe Expérience 7. Je vous laisse apprécier.
T'aimerais toujours. Oui. Coche ma mère, empâté sa fille, fourni santé pour sa qu'elle est.
Ça paie douce, ça paie cruel.
Tu as vieilli, en une nuit. Tu faisais peur à regarder.
On aurait pu tout s'y passer.
Quelqu'un a-tu nous protéger. N'aie pas de honte à te farder. Les stars se font bien maquillées.
Il faut que demain,
demain,
que tu sois belle.
Qu'on les voit de très loin tes ailes au parfum de cannelle.
Il faut que demain,
demain tu sois belle. Qu'on les voit de très loin tes ailes.
Il faut que demain que tu sois belle.
Qu'on les voit de très loin tes ailes.
Tes ailes.
C'était le groupe Expérience 7 sur les ondes de RDIWA, le 107.5 et le 101.7. C'est toujours Assunta avec vous dans l'émission Kaléidoscope. Et si nous parlions maintenant de la qualité de vie, et nous faisons un petit tour de la qualité de vie dans les villes de France. Parlons de Strasbourg avec le record des ponts. Partout, avec ses nombreux canaux et sa rivière, la ville alsacienne dénombre plus de 230 ponts. Parmi les plus emblématiques, les ponts couverts, qui ont perdu leur toit au fil des siècles, Strasbourg dispose aussi du plus grand réseau d'itinéraires cyclables du pays, 600 km après Paris, qui en possède 1000 km. Et la plus belle ville est Bordeaux en Gironde. En se basant sur le nombre d'or, une proportion géométrique réputée idéale, le site Online Mortgage Advisor a analysé les formes de 2400 bâtiments dans les grandes cités du monde et il a établi un record de beauté des villes. Venise l'emporte et en 8e place, Bordeaux est la première ville française dans le top des 25 plus belles villes au niveau mondial. Et si nous parlons maintenant de tranquillité garantie, eh bien c'est Cherbourg en Cotentin, dans la Manche, qui, selon une étude menée par Le Parisien, offre aux habitants une sécurité et une tranquillité inégalées en France. En 2023, seulement 5 agressions pour 1000 habitants. Et que dire de la ville la plus historique ? Alors il s'agirait de Arras, dans le Pas-de-Calais, avec 227 édifices possédant au moins une protection pour 41 000 habitants. Arras affiche la plus importante densité de monuments historique. On a longtemps pensé que Nantes, dans la Loire-Atlantique, détenait le record des ronds-points. Eh bien non, avec près de 500 ronds-points, Toulouse se classe en tête des communes hexagonales et dépasse donc largement la ville de Nantes qui n'en possède que 383. C'est bientôt l'été, alors quelle ville possède des piscines en pagaille ? Il s'agit d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, avec 6149 bassins recensés par le plan cadastral informatisé. Aix-en-Provence est la commune la plus riche en équipements aquatiques privés. Quelle ville de l'Hexagone possède le boulevard le plus court du monde ? Il s'agit de Lille. Le boulevard Papin, entre la Porte de Paris et le parc Jean-Baptiste Lebas, ne mesure que 110 mètres. Ce serait donc le plus petit du monde. Et si nous parlions maintenant des départements et des régions et de leurs records inattendus ? C'est le département de la Manche qui dénombre le plus de bovins en France, selon l'INSEE. 685 000 contre 495 000 habitants. Dans le Finistère, ce sont les porcs qui l'emportent, 2,7 millions pour 905 000 personnes. Et dans l'Aveyron, ce sont les moutons, avec 991 000 moutons pour 279 000 habitants. En ce qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle compterait 13,72% des 15,1 millions de chats et 7,5 millions de chiens du pays selon une étude menée auprès de 1706 personnes. Les Ardennes seraient le département où l'on pratique le plus l'athlétisme, 9 licenciés pour 1000 habitants. Les Deux-Sèvres, le plus de gymnastique, 10 licenciés pour 1000 individus. Enfin, parlons de la Mayenne, avec ses 600 châteaux dont 400 appartiennent à des particuliers. Elle détient le record des châteaux privés. Et pour terminer, d'après le site de l'internaute qui a compilé des données INSEE, la Gironde est le département qui compte le plus de routes, 20 964 km, autoroutes, départementales et rues comprises. Nous voilà arrivés au terme de ce tour d'horizon des records inattendus des villes et des départements français. C'est toujours Assunta avec vous sur les ondes de RDY dans l'émission Kaléidoscope et nous allons passer à la deuxième partie de notre émission avec une rencontre. Oui, dans cette deuxième partie d'émission, nous rencontrons des passionnés qui viennent nous parler de leur parcours. Et aujourd'hui, nous recevons Vincent Baptiste d'Altitude 415. C'est un passionné d'informatique et tout en ayant un autre métier, il a réussi à concrétiser son projet de créer son activité et de la développer. Nous nous rendrons compte qu'il a fait de la dimension humaine un pilier dans son activité. Le contact humain tient une grande place et il y accorde une grande importance. Et oui, remettre de l'humain là où la machine est présente, cela fait du bien. Alors nous allons tout de suite commencer cet échange avec Vincent. Bonjour Vincent.
Bonjour Assunta.
Alors, ravi de te recevoir sur les ondes de RDY.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Nous allons pouvoir avoir un petit échange sur ton activité. Si tu peux nous dire tout d'abord en quoi elle consiste dans un premier temps.
Oui, alors c'est une activité donc, qui consiste principalement en de la conception de sites internet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site internet, ça vit. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on va mettre beaucoup de cœur à pouvoir partager justement une activité, un plaisir ou alors simplement des services aussi concernant une entreprise, concernant des loisirs personnels, concernant des associations aussi. Et diffuser tout cela sur Internet, c'est un métier à part entière.
Oui, j'imagine.
Beaucoup de temps, ça demande pas mal de compétences. Et le but, justement, c'est de pouvoir rendre accessible cette diffusion d'informations sur un public le plus large possible.
Très bien. Alors, est-ce que, justement, tu pourrais nous dire comment est née cette passion chez toi de devoir retranscrire toutes ces données que tes clients te fournissent de la meilleure manière qu'ils soient pour que leurs informations soient accessibles aux clients sous forme de site web ou autre type de communication en tout cas. Comment est-ce que cette passion est née à l'intérieur de toi et comment elle a grandi? Comment tu en es arrivé justement à créer cette activité Altitude 415?
Eh bien, écoute, c'est une histoire qui remonte à il y a très longtemps. Alors, Altitude 415 a quelques années, mais le plaisir de la conception en lui-même remonte à très longtemps. Plutôt dans ma jeunesse, en fait, où à une époque où tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur la création d'un site internet était un peu plus obscur. J'ai commencé en fait à coder de mon côté, vraiment voilà, sur des pages de texte tout simples, à pouvoir mettre en forme du texte, des images, ensuite pouvoir les diffuser sur Internet, trouver un hébergeur, assurer la sécurité. Tout ça, ça a pris du temps. Ça a commencé d'abord avec mes amis à l'époque, encore tout jeune, où on avait des associations sportives, des associations qui étaient aussi liées à du e-sport, enfin ce qui s'appela ensuite plus tard le e-sport. Et au fur et à mesure, ça a permis de pouvoir ajouter à chaque fois des compétences supplémentaires, pouvoir grandir finalement à ce niveau-là. Ça a pris beaucoup d'années. ça a surtout apporté beaucoup de plaisir à pouvoir voir chacune de ces créations en ligne, ce qui m'a amené plus tard à créer une société, en fait, finalement, permettait de pouvoir réaliser tout ça.
Oui, complètement. Alors, peut-être une question également qui me vient à l'esprit. Altitude 415, est-ce que cela signifie quelque chose de particulier pour toi ? Ce mot, ce terme, l'origine du nom ?
Oui, tout à fait. Alors, choisir un nom, c'est jamais évident. Pour connaître aussi quelques-uns de mes clients, pour lesquels voilà, il y a des noms qu'ils souhaitent pouvoir mettre en place, qui sont parfois pas évidents à pouvoir trouver. En ce qui concerne le mien, c'était plutôt simple. Altitude 415, c'est né en même temps finalement que l'idée de passer du concept à la réalité. Et 415, ça s'est fait très simplement puisque j'étais à Die à ce moment-là. Je pense que c'est un territoire que vous connaissez bien, un territoire, la passerelle du viaduc sur laquelle figure justement cette mention altitude 415 en référence à la hauteur au-dessus du niveau de la mer, à cet endroit précisément. C'est précisément à cet endroit-là, on va dire historiquement, que je me suis dit que ça y est, j'allais me lancer cette entreprise-là. Et j'étais sur ce viaduc à ce moment-là, c'est né comme ça.
Alors, c'est une très très belle histoire parce que je dis souvent justement dans cette partie de l'émission que le Diwa est une terre aussi de fertilité, de créativité. En tout cas, il y a beaucoup d'histoires qui naissent dans le Diwa et l'histoire de ton entreprise le prouve quelque part. Et c'est merci pour cette précision en tout cas sur le nom de ton entreprise. Alors, j'ai entendu que tu avais appris à coder, est-ce que tu as fait beaucoup de travaux en autodidacte ou est-ce que tu as eu des formations à côté ? Comment ça s'est passé pour toi ?
Alors, ça s'est passé principalement en autodidacte. Il faut bien avoir à l'esprit que c'était il y a 25-30 ans à peu près. Allez, 25 ans, on va dire. Où finalement, peu d'informations étaient à la fois disponibles, plusieurs livres, mais pas forcément accessibles à un public averti. Moi, étant jeune, c'était pas forcément évident, donc ça a été beaucoup d'autodidactes, de renseignements avec finalement une petite communauté à l'époque qui a fini par grandir. Peut-être que certains ont connu et que ça fera peut-être sourire même d'autres. J'ai commencé avec à l'époque ce qui s'appelait le site du zéro. On commençait de zéro. C'était un peu le concept sur plusieurs éléments. Et j'ai appris grâce à ce type de site internet qui voulait aussi mettre à disposition les compétences requises pour pouvoir permettre à d'autres de grandir eux aussi. Et de fil en aiguille, le fait de pouvoir trouver des contacts aussi qui travaillaient, qui essayaient certaines choses aussi, qui fonctionnaient, parfois un travail en collaboration, ont permis de pouvoir acquérir à d'autres connaissances. Aujourd'hui, le spectre est beaucoup plus large. On trouve beaucoup de choses sur Internet qui sont vraiment de qualité. Et tous les jours, ou presque, je peux continuer aussi à apprendre et à développer d'autres compétences pour améliorer justement les sites web de mes clients.
Merci pour toutes ces informations, Vincent. Et du coup, alors, les clients que tu peux rencontrer, est-ce que ça peut être... est-ce que tu t'es fixé un domaine précis dans lequel, par exemple, tu pourrais créer des sites web ou est-ce que le tout venant, tout type de projet, en fait, finalement, peut atterrir à Altitude 415 ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à peu près tous les projets peuvent être portés par la personne du coup qui va être en charge de pouvoir monter un site internet. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'intéresser à la personne, à son travail. À partir de ce moment-là, je pense que la plupart des projets peuvent être entrepris. Donc, entreprises, collectivités, particuliers, petites associations, je peux travailler avec ces personnes, oui.
J'imagine que tu passes effectivement beaucoup de temps à t'imprégner de l'ambiance que la personne souhaiterait refléter à travers son site web, de son activité, de sa personnalité. Ça nécessite peut-être un temps d'échange, beaucoup d'échanges même peut-être avec la personne qui fait appel à tes services.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est important de savoir, c'est un petit peu ce que je disais aussi, c'est que on s'attelle vraiment à connaître une personne ou à connaître une entreprise pour pouvoir la refléter au mieux, soit sur des idées qui sont déjà conçues à l'intérieur de ces personnes, de ces groupes, soit pour en faire émerger de nouvelles. Et c'est tout cet aspect intéressant, justement, qui est assez axé communication, découverte, recherche. C'est de la prospection dans la prospection. Et c'est une grande partie, mais qui permet de pouvoir réaliser le meilleur départ possible.
Merci. Alors, pour en revenir un petit peu à ton parcours, est-ce que tu pourrais dire que la création de ton activité a été plutôt un parcours aisé? Est-ce que tu as rencontré quelques obstacles et comment tu les as surmontés?
Alors, la création en elle-même, relativement simple, je pense que le plus compliqué à ce moment-là, c'est de pouvoir se dire j'ai cette idée, j'ai ce concept, j'aimerais bien le mettre en place, maintenant il faut le faire. Ça, je pense que c'est un peu la première barrière mentale qu'il faut passer. À partir de ce moment-là, je pense que même les plus longues démarches seront effectuées assez simplement. Voilà. Tant que le cœur y est, et pour le coup, c'est vraiment le cas, c'est vraiment très important, la mise en place de sa structure peut être assez rapide. Après, il va falloir passer beaucoup de temps à s'intéresser aux autres.
Qu'est-ce que tu pourrais donner éventuellement comme conseil, s'il y en avait à donner, hein, à un jeune, par exemple, qui aimerait bien franchir le pas de créer une activité?
Alors, il y a plusieurs points, selon moi, qui sont importants, quelques-uns qui sont vraiment absolument nécessaires. Évidemment, il y a l'envie première. Et ensuite, je pense qu'un accompagnement, un entourage en tout cas, qui permet de pouvoir valider les séances, les moments où on est dans le doute, dans le flou, je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Une envie personnelle, un accompagnement, un encadrement de confiance, je pense que c'est ce qui permet de vraiment pouvoir se mettre en route. Et après, je dirais, le dernier point, c'est de se lever, d'y aller, en fait, et de ne pas attendre demain ou plus tard quand on pense que ce sera mieux. Je pense que vraiment, l'essentiel, c'est d'y aller maintenant.
De passer à l'action, donc.
Tout à fait.
Voilà. Pour toi, comment ça s'est passé? Quelles sont les premières actions que tu as dû mettre en place à partir du moment où ton activité a été créée, officiellement, on va dire?
Eh bien, les premiers éléments. Il y avait, je pense que une des parties les plus longues, c'est de pouvoir, enfin, je pense à partir du moment où l'entreprise est sur les rails, c'est d'aller justement au contact des prospects, des futurs clients, de tout cet environnement qui, pour une certaine partie, peut-être cherche un service, cherche une prestation, et pour d'autres, pour l'instant, ça reste quelque chose qui est encore assez loin, parfois un peu obscur, et justement d'aller à la rencontre de toutes ces personnes-là.
Et d'apporter un éclairage peut-être aux personnes.
Un éclairage, oui. Tout à fait, oui. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu obscur, parce que alors, j'ai eu souvent le cas, c'est que beaucoup de personnes se sont mises d'eux-mêmes à pouvoir mettre en place leur site internet, ont rencontré certaines difficultés, ou en tout cas n'étaient pas satisfaites du résultat. Et donc la question qui se pose, c'est finalement comment est-ce que je peux faire pour mettre en place un site internet qui soit comme ce dont j'imagine à ce moment-là. Et c'est là que toute la partie justement du webmaster, l'activité de mon entreprise, est la plus importante, et c'est celle qui permet l'accompagnement pour pouvoir mettre en ligne ce type de projet-là. Et à juste titre, c'est une partie qui est souvent assez complexe, dans le sens où voilà, il faut arriver à mettre à la fois en image, à la fois en texte, ce qui se trouve dans la tête de la personne.
Et oui, donc ça demande, on va dire, des compétences multiples finalement, et aussi une grande capacité de, on va dire, de connexion quelque part avec les clients pour savoir vraiment ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent mettre en évidence. Du coup, ça t'amène aussi à développer un côté relationnel très important.
Tout à fait. Et c'est là que l'écoute active est très importante à ce moment-là.
Alors, bien souvent, quand des personnes ont des idées de création d'activité, de création d'entreprise, il y a un petit peu la peur de l'échec qui est présente, peur de l'échec dans tel ou tel domaine. Est-ce que justement, avec ton expérience, Tu pourrais nous dire un petit mot là-dessus pour surmonter peut-être cette peur de l'échec, parce qu'il va toujours y arriver un petit couac à un moment donné.
Oui, oui. Alors, tu mets le point sur quelque chose de très important, en effet. La peur de l'échec. Bon, finalement, c'est peut-être un peu la crainte de réussir aussi, puisque des échecs, on en réalise tous les jours. Je pense que alors certains excellent plus que d'autres. Mais d'une manière générale, c'est vrai que cette peur de l'échec est quelque chose qu'il faut arriver à traverser. Alors, c'est assez difficile. En soi, on va dire, ce qui est important, et c'est là où justement l'entourage dont je parlais tout à l'heure est important, c'est que cet entourage permettra d'aider à passer ces vagues. Ça ressemble à ça finalement. C'est comme quand vous êtes à la plage, à ce moment-là, il y a beaucoup de vagues qui arrivent qui sont un petit peu plus fortes. Si on veut pouvoir aller nager un peu plus loin, il faut les surmonter.
Exactement.
Alors, une planche de surf, ça peut être un ami, quelqu'un qui vous aidera à passer sous les vagues aussi. Enfin, voilà, c'est ces personnes-là qui vont vous permettre de pouvoir passer au-delà de l'échec. L'échec, finalement, si on regarde bien, quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Il y a quelque chose qu'on va rater, auquel on va passer à côté. Mais ce n'est rien en comparaison de peut-être du plus petit nombre de réussites qui vont avoir lieu par la suite. Et ce sont sur ces réussites que l'on doit se baser, absolument.
Exactement. Et en fait, tu disais quelque chose de très important, finalement, c'est que la peur de l'échec cache un peu la peur de la réussite.
Exactement. Et une fois que vous avez déployé votre potentiel, qu'est-ce qui vous reste à déployer de plus ?
Est-ce que tu dirais également que de pouvoir continuer à faire son activité dans le cœur et avec joie, ça nécessite quand même d'être passionné par ce qu'on fait ?
Alors oui, pour moi, c'est absolument indispensable. Et je pense que c'est valable dans tous les corps de métier, tous les corps de passion aussi. C'est absolument obligatoire, selon moi, de faire, de pratiquer avec passion. Avec passion ou avec forte envie.
Oui, c'est ce qui va peut-être d'ailleurs donner toutes les ressources nécessaires, toute la force nécessaire pour surmonter les obstacles d'ailleurs.
Exactement, surmonter les échecs qu'il y aura, arriver aussi à apprécier à sa juste valeur les réussites qu'on aura par la suite, parce qu'il y en aura. Si on y met du cœur, on peut arriver à franchir beaucoup de choses. Peut-être pas tout, c'est important de le savoir, mais en tout cas le principal.
Est-ce que tu dirais que ton activité t'a donné l'occasion aussi de faire de belles rencontres au final, d'aller plus en profondeur sur certaines activités, certains domaines que tu ne connaissais pas du tout, qui n'étaient pas du tout, dans ta sphère en fait, et où tu as pu approfondir peut-être quelques connaissances dans des domaines inattendus?
Oui, 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 et ça c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant et très appréciable justement, c'est de pouvoir découvrir comment finalement certaines entreprises ou certaines activités vivent de l'intérieur. Et c'est en effet ce qui permet une ouverture, ce qui permet une connexion à des métiers qu'on ne connaît pas forcément peut-être si bien que ça en fait.
Oui, c'est un enrichissement, on va dire, pour toi aussi, certainement.
Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ce qui permet d'ouvrir le plus loin possible le spectre d'une dimension humaine.
Exactement. Alors, on va revenir un petit peu sur la partie un petit peu plus technique de ton métier. Actuellement, tu as commencé à développer aussi cet aspect de soutien technique, on va dire matériel, au niveau de l'informatique. Donc, comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu fais, par exemple, sur place des diagnostics sur des pannes ou des...
Oui, alors, du coup, c'est une chance, mais par la force des choses, je me suis retrouvé à devoir faire du dépannage sur du matériel qui permettait justement à une personne de pouvoir s'occuper de son site web de son côté. Cette démarche m'a permis justement de pouvoir ouvrir une autre corne qui fait aussi partie de ma passion à ce niveau-là. Et la réparation donc physique de matériel informatique est aussi quelque chose que je développe également, oui.
D'accord, ça veut dire que sur place, donc, on peut t'amener du matériel, que tu puisses regarder un petit peu ce qui se passe et donner un premier avis ?
Oui, tout à fait. Alors, dans le secteur, je peux aussi me déplacer en fait à domicile de manière à pouvoir faire un premier diagnostic. Souvent, je récupère le matériel et je m'occupe de celui-ci. Ça peut être de autant lié sur le matériel en lui-même, sur des composants, on va dire système, que sur des aspects plus logiciels concernant alors différents types de terminaux, hein, que ce soit des ordinateurs, des tablettes, des smartphones.
Alors, je te vois parler de toute ton activité avec les yeux pétillants. C'est ce qui t'aide en fait à continuer cette activité avec autant de joie, j'imagine.
Oui, 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 tout à fait, vraiment.
Je reviens sur ce thème-là justement parce que dans cette partie de l'émission, c'est important pour moi de vraiment, vraiment faire ressentir ce parcours de passionné parce qu'on a une passion. Des fois, on a des idées, des fois, ça reste, on va dire, ça reste irréel. Mais quand on arrive à matérialiser sa passion et à créer vraiment cette activité, eh bien ça donne ce que ça donne chez toi finalement, c'est-à-dire une activité pérenne qui se développe à ton rythme et je te vois en parler en tout cas avec beaucoup de joie et ça fait plaisir à voir. Quelle est la place que tu donnes à la créativité ? Parce que finalement, tu es un créateur de A à Z pour les sites web.
Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Cet aspect créativité alors, est assez important, surtout parce que, en ce qui me concerne, ça restait aussi un besoin. C'est finalement toujours appréciable de pouvoir se dire, ben voilà, j'ai fait quelque chose, j'ai mis en place des idées, des concepts, je les ai traduits de manière à ce qu'on puisse les voir, les utiliser. Et cet aspect-là qu'amène justement le webmastering permet de pouvoir se... libéré entre guillemets par rapport à ça. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de pouvoir avoir aussi en face des clients, des prospects qui ont aussi ce souhait. Parfois, c'est un peu limité dans le sens où il y a une idée précise, donc on suit un cahier des charges qu'il faut respecter. Bien sûr, de toute façon, ça reste l'objectif principal, la satisfaction client. En tout cas, c'est un de mes points principaux. Après, quand il y a carte blanche, parce que ça arrive souvent, on peut donner libre cours à tout type de création graphique, visuelle.
Finalement, une activité très technique, on va dire, d'un premier abord, laisse place à beaucoup de développement humain à travers tout ça.
Oui, et c'est ce qui reste principal, je dirais. C'est vrai que c'est un monde numérique, hein, c'est comme ça qu'on l'entend souvent. Mais ce monde numérique, derrière, finalement, que ce soit dans les aspects créatifs ou comme dans les aspects liés aux utilisateurs, on va avoir des humains derrière. Donc c'est eux qu'on veut toucher, c'est eux qu'on veut interpeller. Donc si on ne s'intéresse pas à eux, il n'y aura aucune chance que ça puisse fonctionner.
Très bien, je te remercie infiniment Vincent. Alors merci d'être venu partager avec nous sur les ondes de RDIWA ta passion et puis la création de ton activité Altitude 415. Alors comment nos chers auditeurs pourraient te contacter, pourraient te joindre en cas de besoin ?
Alors en cas de besoin, donc par téléphone, donc au 06 12 03 22 92 ou par mail. Plus simplement, ça permet de pouvoir aussi se rendre disponible même le week-end, donc à vbaptiste@altitude415.fr.
Alors, je précise à tous nos auditeurs que je vais mettre dans le replay que vous pourrez retrouver sur le site de RDIWA dans les émissions thématiques Kaléidoscope. Je mettrai toutes les coordonnées de Vincent pour Altitude 415 et vous pourrez donc le contacter en cas de besoin. Eh bien, merci Vincent pour ta participation à cette émission. Nous étions ravis de te recevoir sur les ondes de RDIWA dans l'émission Kaléidoscope.
Eh bien, merci beaucoup Assunta, c'était un très grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci. Nous voilà arrivés au terme de cette émission Kaléidoscope. C'était Assunta avec vous sur les ondes de RDIWA. Ravie de passer ce moment avec vous, chers auditeurs. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de RDIWA.
The greetings of the birds, sky parading. I wish it were the day when I'd be finally ready. not to return. But my father keeps calling me back home, back to our town. He wants me to study, at least to learn. But if there is one thing I don't want to keep spinning, I'd rather live without breaking my back for bones. I must give in. I'm the lad of forest, friend of nuns and fairies, virgin spirits. My soul is crying to see a multitude of landscapes praising wildly. Crushes my plans of liberty. He uses my feelings to fetter me. But I'm growing stronger. One day I will finally get rid of my. Father, I'll look at you in the eyes to feel the satisfaction of feeling nothing while you'll be crying. We will argue so hard, but my words will be so sharp that on top of your authority, I will break your heart. Break me from your father.